antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
C'est votre libre antenne qui se prolonge en direct jusqu'à 1h du matin, 23h45. Nous accueillons Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors,
dites-moi.
Oui, moi, ça va être un sujet un petit peu plus léger, je pense, par rapport aux deux précédents. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal à me stabiliser au niveau sentimental.
Oui.
C'est-à-dire que je vais faire des rencontres, construire un début d'histoire, un début d'amour.
Oui.
Et très rapidement, je vais me lasser de cette relation et j'arrive pas à me stabiliser.
Et est-ce que vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser ?
J'ai quelques pistes, mais oui, j'ai quelques pistes. C'est-à-dire que je pense que j'ai peur tout simplement de donner mon amour, tout simplement.
D'accord. Peur de l'engagement, en fait.
Peur de l'engagement, peur d'aimer tout simplement. Et à la fois, j'en ai très envie parce que c'est quelque chose de beau et de se retrouver seul le soir dans son lit à réfléchir à tout ça, ça me mine parce que je me dis mais pourquoi j'arrive pas, pourquoi j'y arrive pas.
Vous avez 53 ans, hein, Anne-Marie.
Oui. Oui.
Vous avez été mariée.
J'ai été mariée pendant 7 ans.
Oui.
Donc j'ai, je sais pas en fait si j'étais vraiment amoureuse de mon mari. Donc on a eu un enfant ensemble et très rapidement au bout de 3 ans je le supportais plus.
Oui. Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ?
J'avais 30 ans.
D'accord.
J'avais 30 ans, j'ai eu mon fils à 33 ans. Je le regardais, et plus je le regardais, moins je l'aimais. Je voyais tous ses défauts.
Oui.
En fait, oui, comme s'il fallait que je l'expulse de ma vie et que je me retrouve seule. Pour recommencer autre chose et pour retrouver un nouvel amour et de nouveau réenclencher le même schéma.
Est-ce que vous avez identifié une période précise dans ce début d'histoire qui vous fait vibrer particulièrement? Est-ce que je précise ma pensée? Est-ce que c'est voilà, c'est que au début que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous remplit et qui finalement s'étiole un petit peu au fur et à mesure que les semaines passent ou que les mois passent et où vous sentez à nouveau que vous êtes lassé par ce type de relation et vous sentez que ça se délite un peu, ça s'en va.
Alors j'ai identifié ce symptôme, ouais. si on peut dire.
C'est un symptôme, c'est pas grave, hein, mais c'est
oui. Oui, c'est-à-dire que j'ai besoin de séduire.
Ouais.
J'ai vraiment ce sentiment d'avoir besoin de séduire, d'avoir besoin que l'homme qui va partager un petit moment de ma vie tombe amoureux de moi, et une fois qu'il est amoureux, subitement ça m'exaspère, ça me convient plus.
C'est peut-être parce que vous êtes une passionnée en fait. Ouais, je vois dans ce schéma-là vraiment que vous, ouais, vous appréciez le moment où vous vibrez, où on est dans le danger un peu quelque part de ne pas être sûr de perdre l'autre.
Oui.
Et dès que la relation est établie, et que vous n'avez plus peur de le perdre, là, vous êtes moins... Voilà, vous êtes moins dedans. Comme si vous aviez besoin de vous sentir en danger. C'est ce qui vous fait...
Oui, oui, c'est complètement ça. J'ai besoin de sentir quelque chose de vivant et qui me fasse vibrer.
Oui.
Après les habitudes, etc. Tout ça m'ennuie prodigieusement et donc là, il va y avoir un système inverse qui va se produire, c'est-à-dire que je vais détailler tout ce qui ne va pas. Et je vais me nourrir de tout ça et c'est extrêmement pénible parce qu'à la fois pour la personne qui partage ces moments avec moi, j'imagine que c'est
oui c'est ça doit être
c'est très dur
oui
c'est très dur et à la fois la dernière personne avec qui j'étais m'a dit mais tu ne sais pas aimer. Et ça m'a fait un électrochoc.
Ouais.
parce que je me suis dit, mais oui, il a raison, je ne sais pas aimer.
Alors, est-ce qu'il y a eu autant de relations que ça pour que vous commenciez à vous poser des questions? Vous avez répété ce schéma-là combien de fois, là, ces dernières années ou ces derniers temps?
Tout le temps.
Mais c'est-à-dire, vous avez eu 5 fois, 6 fois, 3 fois
J'ai pas fait le calcul, je suis pas sur des relations, enfin la plupart de mes relations ne durent pas plus de 3 ans ou voire 5 ans si je tiens le coup.
Quand même,
c'est pas très cool ce que je dis, mais c'est
3 ans, 5 ans, vous n'êtes pas non oui. plus dans, à enchaîner, si vous voulez, des relations
non,
tous
non,
les
3 non.
mois, 4 mois, vous voyez, c'est...
Non, parce que je ne suis pas aussi...
Non, mais vous pourriez, aussi... ça ne serait
oui.
pas plus... Enfin, ça serait autre chose, mais ce que oui. je veux dire, c'est que vous ayez enchaîné ces dernières années, mettons ces 10 dernières années, que vous ayez eu 3, 4 histoires comme ça qui ont duré... 2-3 ans et qu'au bout de 2-3 ans vous vous soyez aperçu que ça n'était pas ça, c'est peut-être parce que vous devez aller chercher vraiment ce qui c'est pas que vous ne savez pas aimer, moi je ne pense pas que vous ne savez pas aimer, je pense que vous avez plutôt besoin de vibrer et d'avoir quelqu'un en face de vous qui soit à égal avec vous, vous voyez, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, vous avez besoin de respecter l'autre en face parce qu'il vous maintient dans une situation de danger, mais alors danger c'est un bien grand mot, mais en tout cas
oui.
que rien n'est acquis en fait, et beaucoup d'hommes que vous avez rencontrés, j'avance hein, peut-être ces hypothèses, mm-hmm. peut-être sont rentrés assez vite dans une relation ça y est, c'est fait, et puis on rentre dans une relation un peu plan-plan, un peu qui vous a vite ennuyé, je sais pas, j'ai ressenti ça un peu dans ce que vous me disiez, mais peut-être je me trompe hein. Mais
non, mais c'est tout à fait ça. Et à la fois j'ai vraiment ce besoin de séduction, de un petit peu comme une mente religieuse, c'est-à-dire que je veux quand j'ai décidé de jeter mon dévolu,
oui.
je vais tout faire vraiment pour séduire cette personne-là,
oui.
et quitte à ne plus être moi-même, mm-hmm. mais être la personne que
l'autre désire voir.
Que l'autre désire voir, voilà.
Mm-hmm.
Donc, je renvoie vraiment tout ce que l'autre peut désirer voir. Et donc, ça me demande de l'énergie. Et du coup, une fois que c'est fait, eh ben, pour moi, il y a plus d'enjeu, il y a plus de.
Je vois parfaitement. Ouais. Vous êtes.
Ah.
Ben oui, je vois parfaitement. Vous êtes dans une sorte d'égocentrisme, hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais.
Un égocentrisme assez important qui fait qu'à un moment, vous croisez un homme et que cet homme vous fait de l'effet, mais il vous fait de l'effet parce que peut-être il fait beaucoup de gestes, il parle, il est très... Voilà, il a la représentation de quelqu'un de sûr de lui, en tout cas de quelqu'un qui, à un moment, éveille ce sentiment chez vous que vous allez le séduire, que vous allez le faire tomber quelque part, qu'il va être à vous, un peu comme une proie.
Ouais.
Hein, et une fois que vous l'avez eu, ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus. Je prends des mots un peu crus, mais c'est exactement ça, je pense, que vous vivez.
Oui, complètement. Mmh. Bah, je suis tout à fait réaliste par rapport à ça. Et en fait, rétrospectivement, je me demande, parce que j'ai mon père qui était très violent et qui n'a jamais porté d'attention envers moi, et pourtant je recherchais son amour.
Oui.
Et j'ai un oncle qui était dans la famille et qui a porté beaucoup d'attention envers moi, et pour dire les choses telles qu'elles sont, qui m'a violée.
À quel âge m'avez-vous dit ?
7 ans.
À 7 ans, d'accord.
Oui. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une corrélation avec ça, si le fait d'avoir cherché l'amour de mon père, que je n'ai pas trouvé, et du coup, le fait d'avoir eu... C'est très curieux, je vais pas dire une relation avec mon oncle, parce que c'est bizarre de dire ça. Quelque part, j'ai recherché l'amour. J'arrive pas à trouver mes mots parce que c'est très compliqué pour moi.
Ouais,
de savoir si c'est pas à cause de ça que j'agis de cette manière-là aujourd'hui.
Mmh. On va continuer à parler de vous, peut-être chercher à s'expliquer plus précisément votre mode de fonctionnement. Mais je pense que vous avez commencé tout de même à mettre le doigt sur des points essentiels, en tout cas des points essentiels dans votre construction, en fait, dans votre constitution, votre construction de petite fille. Et ensuite d'adolescente, les hommes ont représenté soit un danger avec votre oncle, soit l'inatteignable. Mmh. Et là, maintenant, vous cherchez à atteindre tout ça, en tout cas à le posséder. On va continuer à en parler ensemble, Anne-Marie, vous restez avec moi. Le temps qu'on écoute le journal de la nuit, on se reparle dans quelques minutes, d'accord ?
Entendu.
À tout de suite. Minuit passé de 6 minutes et nous sommes toujours avec vous, en votre compagnie, pour votre libre antenne. Nous évoquons beaucoup de choses ce soir. Nous évoquons la solitude lorsque l'on souffre d'un handicap, comme Max nous l'a expliqué. Et puis Michael, avec ses problématiques de paralysie du sommeil, qui va finir par se diriger vers un autre professeur afin d'avoir un autre avis. Et puis Anne-Marie qui nous parle de sa vie sentimentale, qui est assez finalement mouvementée, puisque Anne-Marie, vous nous expliquez qu'il est compliqué pour vous de construire, en tout cas de vous engager. Nous évoquions, avant le journal de minuit, nous évoquions donc ces hommes dans votre enfance, dans votre jeunesse, cet oncle qui vous a tout de même fait du mal, et puis ce père qui non seulement ne vous apportait pas son amour, ce père légionnaire, hein, vous m'avez dit,
dans la Légion étrangère,
dont vous cherchiez l'amour et qui ne vous a pas protégé non plus. Donc,
non, parce que d'autant que ça s'est passé sous son toit, donc c'est d'autant plus ahurissant. Quand cet oncle est venu passer quelques jours à la maison, c'est vrai que j'ai trouvé une écoute, un réconfort auprès de lui, puisque je l'avais pas auprès de mon père. Et c'est comme ça un petit peu qui m'a pris dans ses filets, on va dire. Et je l'ai suivi, je sais pas pourquoi, il dormait à la maison et il m'a dit rejoins-moi et je l'ai écouté.
Vous aviez 7 ans. À 7 ans, on ne pense pas à mal. Je suppose que ce n'est pas quelque chose qui vous a traversé la tête.
Je sais pas trop si c'est vraiment je savais que c'était mal puisque il fallait que je sois
discrète,
que je sois silencieuse,
ouais.
Voilà. Il m'invitait vraiment comme un secret, il fallait pas que je le dise, voilà. Donc je sais. Au fond de moi, je pense que je devais le savoir.
Oui, mais vous avez été manipulée à l'époque. Même si vous saviez que c'était interdit, c'est tout de même lui qui vous a mis à l'époque ça dans la tête, qu'il fallait que ça soit votre secret à vous deux, que même si au fond de vous, vous saviez que ça n'était pas normal, on va dire.
Oui.
Il faut que vous vous débarrassiez impérativement de ce sentiment un peu de culpabilité, hein, comme quoi vous saviez au fond de vous, parce que on sait combien les personnes qui commettent ce genre de choses sur des enfants sont d'une habileté diabolique, et combien ils les manipulent et qui peuvent leur faire croire à de belles histoires. C'était le frère de votre père ou c'était le frère de votre...
De ma mère.
De votre mère, d'accord.
Oui.
Et votre mère était où à ce moment-là, en fait ?
Elle était présente aussi. Donc, en fait, ils se sont rendus compte de rien. Et donc, j'ai été voir une psychologue, hein, quand même, avec qui j'ai beaucoup parlé et pour essayer de me sortir de tout ça, et j'ai eu le besoin bien après, c'est vraiment il y a 3-4 ans que j'en ai parlé à mon père, parce que j'avais besoin de lui dire. Donc j'ai été chez eux et je lui ai dit bah voilà, j'ai quelque chose à te dire, voilà, il s'est passé ça quand j'avais 7 ans, et sa réaction a été de me dire ah oui, oh bon, il a ouvert son imperméable. Et je lui ai répondu non, non, papa, il m'a violé. Et voilà, il s'est tu.
Ah, il s'est tu.
Il m'a plus rien dit.
D'accord.
Il s'est tu. Oui.
Bon, vous n'êtes pas tombé sur le bon. Hein. Là, c'est quand même curieux qu'il ait eu cette réaction, non ?
Oui, complètement, parce que et à la fois, je ne m'attendais pas à mieux de lui.
Comment ça ?
Mais on a tellement peu d'échanges entre nous deux. Rien que le fait de dire papa, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Je l'appelle jamais comme ça. J'ai plutôt tendance à dire le père. On a jamais eu de...
D'affinité, en fait, de rapport...
D'affinité, ni d'amour vraiment, vraiment ensemble. C'était plutôt des claques et des raclées que j'ai reçues de sa part. Donc je m'attendais pas non plus à ce qu'ils me disent oh, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé, mais comment, à quel moment, tu peux m'expliquer
vous vous rendez
comment
compte,
ça se fait que j'ai rien vu.
Vous vous rendez compte de ce que vous avez vécu en termes de non-protection et même de après, quand il apprend ça, l'attitude qu'il a, c'est
oui.
Bah oui, c'est là où vous attendiez justement au moins qu'il pose des questions et qu'il s'inquiète de ce que ça avait pu produire sur vous.
Oui.
Il vous sort cette pensée débile, excusez-moi, hein, cette phrase
oui,
débile,
mais...
qui a dû vous sidérer parce que.
Ah mais j'étais en face de lui, j'avais installé une chaise en face de lui parce que c'est pour moi c'était important qu'il
sûr.
Sache.
À quel vous l'avez dit combien de temps après en fait ça assez vite ou
c'est-à-dire bah, que je lui ai révélé
oui que vous lui avez
s'était passé
oui
je lui ai dit quand j'ai eu 50 ans c'est-à-dire
ah oui d'accord vous lui avez dit il y a pas longtemps
oui il y a 3 ans
d'accord il y a 3 ans
oui J'ai pas pu lui parler avant. J'ai pas pu lui parler de ça avant parce que j'ai jamais osé. J'ai jamais osé lui en parler et j'ai dû faire une analyse vraiment assez poussée par rapport à ça parce que j'ai culpabilisé énormément hein, sur le fait que
vous aviez laissé ça comme ça.
Oui, et puis sur le fait que je suis allée dans rejoindre mon oncle. Enfin, j'ai beaucoup culpabilisé. Donc du coup, j'avais vraiment cette appréhension de lui en parler, de lui dire ce qui s'était passé. Et à la fois, si je l'avais dit avant. Parce que bon, depuis, il est mort, hein, l'oncle en question. Ouais.
Il est resté un peu quand même dans votre vie à un moment, cet oncle ou...
Alors, il a réapparu au bout de... Alors, il y a eu l'épisode des 7 ans.
Oui.
Et comme il était en plein divorce, il cherchait beaucoup le soutien de sa sœur, donc de ma mère. Mm-hmm. Et il allait la voir de temps en temps et je me souviens parce qu'en fait je sais pas si les traumas font que la mémoire on a du mal à se souvenir des dates et mais j'ai beaucoup de mal à me rappeler des dates j'ai que des flashs comme ça
oui.
et je me souviens qu'il était arrivé arrivé à la maison et il m'avait pris en aparté donc il y avait peut-être quelques années après et il m'avait pris en aparté il m'avait dit tu te souviens quand j'étais venue et j'ai dit tout de suite non je me rappelle pas je me souviens pas.
Oui, vous ne vouliez pas affronter, en fait.
Non. Et puis lui dire quoi ? Oui, je me souviens.
Oui. Vous étiez adolescente à ce moment-là ?
Oui, j'avais 12-13 ans, quelque chose
d'accord,
comme ça.
D'accord. Bon, bah, clairement cet épisode-là marque
oui.
quand même... vous voyez, votre rencontre avec l'homme, en fait.
Oui.
Votre rencontre... dans la séduction aussi, parce que j'entends dans ce que vous m'expliquez que vous l'aimez bien, cet oncle, en fait. Et cette culpabilité, elle a l'air d'émaner de ce sentiment-là, quand vous expliquez qu'à 7 ans, vous saviez que ça n'était pas bien, mais que vous le rejoigniez
oui.
quand même. Il y avait une complicité qui était établie, qui était établie, et même si... elle était due à une manipulation hein, de la part de cet homme, parce qu'un adulte ne fait pas venir une petite fille de 7 ans dans sa chambre la nuit.
D'autant plus,
avec ce qui s'est passé, on ne peut pas douter des intentions qui étaient celles de cet oncle.
Oui.
Mais il a quand même réussi à faire naître ça chez vous.
Oui.
Et donc, ensuite, lorsque vous êtes ado, il revient vous voir, il a le toupet quand même, hein, de revenir vous voir pour savoir si vous vous rappelez.
Parce que,
bah oui, mais non, mais il retombe sa chance. Vous voyez Parce que c'est là que vous lui dites, oui, je me souviens. Et puis, peut-être il n'était pas loin de vous redemander de, vous voyez, quelque chose, quoi. Vous savez, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de ce type d'énergumène, quoi. Mais peut-être pas, je ne sais pas.
Je pense plutôt que c'était de la crainte.
Oui, la crainte que ça soit révélé.
Oui. Mmh. Je pense que c'était plutôt dans cet état d'esprit, parce que il craignait énormément mon père. Hein,
ben oui, je me doute.
Donc, je pense qu'il avait besoin d'être rassuré par rapport à ça et de se sentir
à
libre.
À l'abri.
Oui, voilà.
Oui, parce que peut-être votre père, il l'aurait tué, peut-être.
Oui, et c'est pour ça que j'ai jamais voulu en parler à mon père.
Ouais. Mmh.
Parce que j'étais persuadée que mon père, s'il avait su ce genre de choses, à l'époque où il était plus vaillant...
Ouais. Ça aurait fait des étincelles, cette histoire.
Oui, je pense qu'il aurait tué, oui. Mmh. Ouais.
Donc, dans cette construction quand même d'enfant, ensuite d'ado, vous avez quand même une représentation de l'homme qui est quand même... particulière. On est d'accord?
Oui.
Ensuite, est-ce que, justement, on évoquait tout à l'heure le fait que vous faites tout ce qu'il faut pour séduire un homme, même quitte à changer, hein, comme vous le disiez, à vous transformer pour arriver à vos fins. Est-ce que lorsque je vous parle de cette notion de revanche, en fait, d'obtenir absolument ce que vous désirez. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas?
Je pense pas. J'ai le sentiment plutôt de reproduire, mais à l'inverse.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je serais plutôt dans l'idée que c'est moi, je me mets dans le rôle de mon oncle. Dans une séduction.
Ouais.
Et à la fois. Oui, je ne sais pas si je suis très claire.
Non, je vous écoute. Vous mettez dans le rôle de votre oncle. Donc...
Voilà, dans une séduction et d'accroche.
Manipulation.
De manipulation, aussi. Voilà, ouais. C'est ça. Mmh. Et à la fois j'ai besoin de me sentir protégée, donc je vais chercher je vais être vraiment dans une recherche d'un homme qui va me protéger, et à la fois je vais le manipuler. C'est très complexe ce que j'ai dans la tête.
Ce que vous avez dans la tête, c'est comme vous vous êtes construite, en fait. Je pense que on évoque souvent l'image du père, très importante, hein, pour les petites filles, en fait, qui, voilà, quand on est enfant ou quand on est adolescente, on se construit avec ce père en référence. Donc vous l'avez beaucoup cherché, hein, ce père, quelque part, et vous ne l'avez pas trouvé. Donc déjà, dans votre volonté de séduire à tout prix, on peut voir cette quête éternelle d'obtenir de l'homme l'amour et la protection qu'on n'a pas eu, mmh, quand on était enfant ou adolescente. Ouais. Et puis, quand vous l'avez, là, c'est du tout nouveau. C'est du... Vous voyez, j'ai l'impression que cette position-là, en tout cas ce statut-là, une fois que vous avez eu ce que vous voulez, vous n'avez plus de sensations qui vous sont familières, en fait, en tout cas qui vous font vibrer, qui vous plaisent. Et j'ai l'impression que ça vous paraît complètement plat, une fois que tout est gagné, là, tout est obtenu. Et là, bon, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, d'ailleurs? Est-ce que vous mettez un certain temps à partir, ou vous avez du mal?
Je mets un certain temps. Je mets un certain temps parce que j'ai du mal à prendre une décision ferme et définitive. J'essaie de préserver l'autre, de manière à ce que presque je me fasse détester. Mmh. Et que la situation devient tellement insupportable que ça finisse par exploser et à ce qu'on me quitte. Et en réalité, bizarrement, c'est moi qui suis obligée de partir parce que la décision n'arrive pas chez la personne qui m'accompagne, voilà. Et pourtant, je m'arrange pour que ça dégénère.
Mmh. Et vous calculez beaucoup quand même, hein? Hein? Non mais
ouais. Ouais,
j'ai l'impression que vous calculez beaucoup pour arriver à vos fins, parce que là, on est dans un processus autre, mais qui ressemble aussi à quand vous me dites je fais tout pour que l'autre craque, quoi, pour qu'il m'aime plus. Vous êtes à nouveau dans une mutation là, où vous transformez, je ne sais pas en quoi, mais où visiblement vous faites tout ce qu'il faut pour vous faire détester, ou en tout cas pour devenir
exactement, ouais, pour que la personne qui ne souffre pas. En fait, c'est dans ce sens-là. C'est pas pour me faire du mal. C'est et à la fois, je sais pas si je me fais pas du mal aussi. Mais c'est vraiment dans le sentiment. Enfin, j'ai plutôt ce sentiment-là. C'est vraiment dans l'idée que la personne avec qui je suis ne souffre pas de cette séparation.
Mmh. Et est-ce que vous avez toujours reproduit le même schéma? Vous avez l'impression, parce que quand vous m'expliquez, quand vous me parliez de votre mari tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on était à peu près dans le même schéma. Qu'au bout de 3 ans, vous êtes aperçu que vous ne l'aimiez plus vraiment. Qu'est-ce qui vous lassait, par exemple, chez lui, que vous avez identifié chez d'autres? Pourquoi, d'un seul coup, vous ne l'aimez plus? Vous vous ennuyez? Vous le trouvez...
C'est tout un ensemble. C'est-à-dire que je vais m'ennuyer. Je vais trouver que physiquement, il va avoir du ventre, ou il va avoir ceci ou cela. Enfin, je cherche tout un tas de détails qui sont insignifiants.
Ouais. Mais qui vont alimenter réellement, qui vont alimenter cette pensée que vous ne l'aimez plus.
Voilà, ça va être des tics qui vont m'exaspérer. Ça va être un élément de langage qui va m'exaspérer. Et j'alimente tout ça en moi. Et voilà, c'est...
Oui, je comprends.
Je suis épouvantable.
Non, vous n'êtes pas épouvantable. j'ai tendance à penser que vous n'êtes pas tombé sur... Vous savez, je suis vraiment intimement persuadé qu'on croise dans notre vie... on ne croise pas autant de personnes avec qui ça peut coller, vous voyez. Quand on a un niveau de conscience, j'allais dire élevé, mais qu'est-ce que ça veut dire un niveau de conscience élevé, puisque on est un monde à nous tout seuls, et nos repères, les paramètres de ce monde-là, qui est le nôtre, sont tellement différents de celui ou de celle qui est à côté de nous, et puis des autres, en fait, que...
Ouais.
Mais quand je parle de conscience élevée, c'est-à-dire attendre de l'autre tellement de choses, parce que pour qu'un amour dure, qu'il soit fort, il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'on soit dans un échange, dans un échange qui nous nourrit en permanence, et qui nous nourrisse sur plusieurs plans. Et de là, je pense vraiment qu'il est extrêmement difficile de durer, et que les personnes qui sont susceptibles de nous correspondre, eh ben dans une vie, on n'en croise pas. Voyez, et qui peut arriver qu'on n'en croise jamais. Je pense avoir, vous voyez, parce que la tradition, en fait, et puis même notre nature d'homme et de femme nous pousse à nous unir, en fait, à être en couple.
Oui, on peut pas vivre seul.
Je connais des gens qui, on peut vivre seul, bien sûr. Moi, vous voyez, je ne suis pas du tout fait pour être seul, je pense.
Oui.
Mais je connais certaines personnes qui vivent seules et qui sont parfaitement capables d'assumer cet état de solitude parce que elles ont conscience qu'elles ne sont pas tombées sur la personne avec qui elles pouvaient aller loin comme ça. Elles ont essayé, puis à un moment, elles ont dit stop. Si ça vient, ça viendra, mais si ça ne vient pas, et ça n'est pas venu, et ça n'est pas pour autant qu'elles sont malheureuses, voilà, c'est juste qu'à un moment, je crois que lorsqu'on on rencontre celui ou celle avec qui ça connecte, et ben voilà, on est parti pour un chemin qui peut s'avérer être compliqué par moment, hein, parce que le temps, parce que l'usure, parce que tout un tas d'éléments qui viennent voilà, perturber cette union. Mais au bout du compte, cette union, elle peut s'avérer être plus forte que tout. Et persiste l'envie de rester ensemble, persiste l'envie de continuer à partager ensemble. Et je pense vraiment que ça, c'est de l'ordre de l'exceptionnel, vous voyez.
C'est ma quête.
Et oui, c'est votre quête, mais ouais. Vous avez raison d'être dans cette quête, mais peut-être, tout simplement, vous n'êtes pas tombé sur cet homme-là qui serait capable de relever ce challenge qui est le vôtre. Peut-être que vous n'avez pas encore croisé l'homme qui, vous voyez, ou toutes ces choses qui doivent connecter à tellement d'endroits différents. Dans vos personnalités respectives, eh bien, peut-être qu'il n'est pas encore là, cet homme, et que ceux avec qui vous avez cru que ça pourrait marcher, eh bien, vous vous êtes rendu compte que non, parce qu'à un moment, il se laissait aller, parce qu'il avait du ventre, que ça vous énervait, parce qu'il avait un tic de... qu'il avait un tic de langage, ou qu'il avait tout simplement même des petites manies qui vous agaçaient. Et ça, c'est parce que vous êtes sans doute raconté au début que c'était lui, que vous le vouliez et tout, mais que peut-être que vous vous aveuglez dans ce moment-là complètement, puisque vous dites que vous vous transformez, mais au bout du compte, peut-être que vous devriez vous méfier de vous au début, et peut-être évaluer un peu mieux la situation et celui que vous avez en face de vous, vous projeter. Alors, je sais que c'est difficile, mais il y a quand même toujours une carte mère, vous voyez, dans les personnes qu'on croise. Et cette carte mère, on arrive quand même à la décrypter, en tout cas dans les grandes lignes, quand on a passé un moment avec cette personne, c'est-à-dire quand on a passé peut-être plusieurs journées ou qu'on s'est rencontré plusieurs fois. Oui. Vous voyez, et donc faut peut-être que vous soyez un peu plus prudente sur justement ces choix-là, et parce que est-ce que ces hommes ont tellement changé? Alors ils ont peut-être changé depuis parce que vous les avez quelque part matés et n'y voyez pas quelque chose de négatif.
Oui,
mais quand
je
dis maté, c'est-à-dire
qu'avec
votre séduction, votre côté très très fort, hein, puisque vous les séduisez, donc vous y mettez l'énergie, bah peut-être que voilà, vous avez fait tomber certaines résistances de ces hommes et qu'ils sont devenus un peu plus... ils sont devenus un petit peu plus... un peu plus mous, un peu moins résistants, vous voyez. Parce que aussi, ils ne veulent pas vous perdre, donc ils pensent qu'en en vous laissant toujours là passer, hein, tel obstacle, eh bien... ils vont vous garder, mais ils se méprennent parce que ce que vous cherchez, je pense, ce sont des hommes qui continuent d'être forts, qui sont capables de vous résister aussi.
C'est ça, c'est ça. J'ai besoin de sentir de la passion. Alors, en fait, j'ai besoin de sentir quelque chose de vibrant au quotidien.
Je pense que vous avez besoin de sentir que celui que vous aimez, vous pouvez le perdre à n'importe quel moment.
Oui.
Et ça, quelque part, ça s'appelle de l'amour. Alors, il faut dompter, hein, il faut savoir dompter cette peur. Parce que elle peut vous pourrir la vie, hein, cette peur. Et puis elle peut transformer cet amour en quelque chose de difficile et de pas très agréable à vivre. Mais
peur de l'abandon,
La peur de l'abandon, la peur de perdre celui qu'on aime, perdre celui ou celle, hein, parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont aussi dans cette peur-là. Mais moi, je pense que vous devez peut-être reconsidérer justement ce que les hommes, reconsidérer votre chemin et voir que ces hommes-là n'étaient pas ceux qui correspondaient à votre quête. Voyez, vous avez cherché l'amour de cet homme légionnaire, de cet homme un peu... Voilà, un peu inatteignable, cet homme qui était fort quelque part aussi, parce que militaire, parce que sans doute avec une autorité, en tout cas un fort caractère, peut-être un homme assez imbu, pas imbu de sa personne, mais assez froid finalement.
Oui.
Et ces critères-là peut-être continuent à vous suivre et déterminent peut-être celui que vous cherchez. Et il faut arriver à mieux identifier ces critères-là et arriver à faire un équilibre entre vous, votre capacité à aimer et puis la capacité à aimer un homme qui a un peu tous ces critères-là. Peut-être qu'il réunit pas tous ces critères-là, mais en tout cas des critères les critères principaux que vous cherchez chez un homme,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais. Ouais.
Et je ne sais pas pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur les derniers, là, sur les trois derniers hommes avec qui vous avez passé quand même un certain temps. Mais peut-être que si vous aviez pris votre temps un peu plus, vous ne vous seriez pas engagé autant, en fait. Vous voyez ce que
peut-être.
Je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Et en fait, vous culpabilisez aujourd'hui de ça ? En fait, vous me disiez que vous souffriez de ça.
Oui, parce que j'aimerais bien pouvoir avoir un compagnon qui puisse me soutenir dans les moments difficiles que je peux traverser, puisque là j'ai développé un cancer du sein. Et je suis seule. Je me dis mais si tu étais moins compliqué, si tu cherchais moins la petite bête, t'aurais quelqu'un qui t'accompagnerait à tes rendez-vous, qui te soutiendrait.
Mais Anne-Marie, on ne peut pas faire de compromis pour. Vous voyez, moi je considère pas l'amour comme une histoire de compromis. Majeur, quoi, en fait. Si vous êtes seule aujourd'hui, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé celui qui vous rendait heureuse, en tout cas suffisamment heureuse pour que vous puissiez rester. Et reconsidérer le fait que il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça vous l'avez déjà entendu, mais là, dans ce domaine-là, quand on commence à trouver que l'autre nous agace profondément, mieux vaut pas s'attarder. Parce que là, pour le coup, on peut rentrer dans des choses extrêmement désagréables et extrêmement destructrices pour vous, ainsi que pour celui qui est en face. Et j'ai saisi que vous le respectiez, hein, celui qui est en face, et que vous n'aviez
tout
pas envie de lui faire de mal. Donc, je pense que vous devriez reconsidérer cet état, pour l'instant, en tout cas ce statut, que si vous êtes seul aujourd'hui, ça n'est pas parce que vous souffrez de... un problème quelconque, hein, mais que vous êtes peut-être une femme exigeante, peut-être sûrement d'ailleurs, de ce que j'entends de vous, une femme très intelligente, et que et que celui qui est en face de vous doit correspondre déjà à ces critères-là. Et je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas mis la barre assez haute aussi, non, je ne sais pas.
Sans doute.
On ne se connaît pas assez, mais vous n'avez peut-être sans doute pas mis la barre assez haute pour séduire un homme qui tient la distance avec vous et qui tient la route, vous voyez, dont vous,
je pense
vous
que je ne mets pas la barre assez.
Peut-être.
Oui, parce que j'ai un manque de confiance en moi aussi.
Vous qui avez ce côté mente religieuse, comme vous dites, et qui vous transformez, peut-être essayez de mettre la barre un petit peu plus haute. Et peut-être que vous remarquerez que vous vous transformez moins et que les choses vous apparaîtront un peu plus, peut-être un peu plus dures, mais que elles vous amèneront peut-être à moins masquer les choses, à moins vous transformer et à les affronter de manière un peu plus directe, vous voyez ? Parce que à transformer et à draper, à transformer les choses, en tout cas à ne pas se montrer à visage, vous voyez, découvert, à travestir les choses. On biaise déjà la relation.
Je suppose
que c'est quelque chose que vous saisissez vraiment. Et donc, du coup, je pense qu'à 53 ans, vous avez toute la maturité pour affronter la prochaine rencontre avec un peu plus de connaissance de vous-même. Parce que au fur et à mesure des relations que vous avez... Vous avez vécu là ces derniers temps, vous avez sans doute beaucoup appris sur vous aussi.
Oui. Mais je pense qu'effectivement, ce nouveau regard d'exigence peut justement m'aider.
En tout cas,
alors que j'avais tendance à faire l'inverse.
Oui, et puis peut-être il va vous aider, sûrement, mais il va vous occuper, je veux vous dire. Parce que vous allez y mettre... vraiment tous vos atouts, tout votre amour sans doute, si vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît et peut-être que moi je pense que quand on commence à trouver à l'autre des petites manies, des petits trucs et tout ça, c'est qu'on a plein de temps pour s'en occuper de ces trucs-là et que en fait on s'emmerde ensemble. Vous voyez.
Oui, je suis complètement d'accord, c'est vrai.
Hier soir, j'ai eu une femme qui nous appelait du Canada et qui nous expliquait la même chose que vous, sauf que à l'inverse de vous, elle me disait, mais moi, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça, que j'ai vécu 30 ans avec mon mari et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai perdu mon temps, et elle me demandait ce que j'en pensais et je lui ai dit, mais allez-y, écoutez-vous et fuyez. Partait. Elle était déjà à moitié partie et je pense que hier soir on a validé, on a composté le billet aller sans retour. Et il faut s'écouter. Vous avez envie de séduire un homme sans doute qui vous fasse vibrer, qui vous séduise. Donc mettez la barre un peu plus haut.
Qui me tire vers le haut, oui.
Et il y a plein d'hommes qui sans doute, enfin plein. Encore une fois, je vous le dis, je dis qu'il y a plein d'hommes qui peuvent correspondre à ce côté barre haute. Hein. Mais dans une vie, on n'en croise pas. Voilà. Mais il est certain qu'on provoque plus des choses en cherchant, en étant consciente qu'on a envie de ça, qu'on a envie d'être accompagné, qu'on a envie de partager. Voilà.
Oui, complètement.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos interrogations, en tout cas.
Oui, ça m'a permis de pouvoir, pouvoir discuter de ça avec vous. Et c'est vraiment toujours un plaisir de vous écouter, parce qu'à la fois, vous avez une voix tellement apaisante, ça me fait beaucoup de bien.
Écoutez, tant mieux, et j'espère surtout que vous ne culpabiliserez pas sur le fait de... Il ne faut pas que vous considériez que ce sont des échecs, ce que vous avez vécu. Il ne faut pas que vous considériez qu'être seul là, au moment où on se parle, est un échec. Ça n'est qu'une étape dans votre, voyez, dans le mouvement de votre vie, dans votre ascension. C'est considérer le plus comme ça et assumer qui vous êtes. Parce que vous, vous savez très bien, en fait, lorsqu'on vous parle, vous mettez très bien le doigt sur ce qui peut avoir déterminé vos quêtes jusqu'à maintenant, cet oncle, ce père, vous voyez, et tout ça. Et quand vous regarderez vraiment bien en face ces choses-là et que vous les assumerez, surtout parce qu'elles appartiennent au passé, et surtout, c'est ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que cette chose que votre oncle vous a fait, elle ne vous appartient pas. Cette saloperie, c'est à lui qu'elle... Vous voyez, c'est à lui, ça. Vous n'avez rien à voir avec ça. Rien. Vous voyez. Et donc ça, ce truc-là, il est parti avec l'eau du bain. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous êtes toute lumineuse, là. Donc, essayez de foncer.
D'accord.
OK. Passez une bonne nuit, Anne-Marie.
Merci.
Et n'hésitez pas à me redonner des nouvelles. Voilà. OK.
Merci. Entendu, Olivier. Merci.
Au revoir.
Au revoir.